écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma, en live sur Séance Radio.
Bonjour, bienvenue dans Séance Radio qui va être, vous l'imaginez, on va être les premiers à faire une émission spéciale, j'imagine, presque en tout cas, placée sous le signe de Star Wars, Réveil de la Force, il paraît qu'il ne faut pas dire épisode 7, et on a un grand spécialiste que je vais vous présenter dans quelques instants, l'un des meilleurs en France et dans le monde, j'ose le dire, en tout cas il connaît Star Wars et la saga par cœur. On va se retrouver évidemment pour les tops et les flops, pour un quiz qui sera sur Star Wars, donc écoutez bien, ça va être très chaud. Et puis bien entendu, on aura un débat sur Star Wars, on aura l'invité Patrice Giraud, et puis nos blogueurs, Alexis Yomé, que vous connaissez bien, de Filmosphère et Clone Web, Tiffany Delot de Screen Review, et un petit nouveau, Jean-Christophe Nurbel de Bulle de Culture. Jean-Christophe, présentez-vous, cher ami.
Bonjour Bruno, donc Jean-Christophe, je suis le rédacteur en chef de Bulle de Culture, sur lequel j'écris pour le cinéma, les séries et le théâtre.
Très bien, on va vous entendre tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais vous présenter Patrice Giraud, avec une petite question. Est-ce que vous avez le trac pour le prochain Star Wars ? Ben, le trac en tant que futur spectateur qui pourrait être déçu ou au contraire comblé.
Bonjour. Écoutez, je suis un grand enfant, j'y pense même pas. De toute façon, j'ai une vie de fou en ce moment à cause de Star Wars, ouais. Grâce à Star Wars.
Vous faites tous les médias.
j'espère simplement, voilà, quand j'irai le voir au cinéma, que je vais retrouver mon âme d'enfant. Voilà. Et ces grands films des années 80.
Voilà, on espère tous qu'on va retrouver notre âme d'enfant, surtout moi. Nicolas Balazar, racontez-nous comment
Bonsoir.
On peut être en relation avec nous tout au long de cette émission. N'hésitez pas, posez-nous toutes les questions que vous voulez.
Exactement, donc pour poser des questions, faire vos remarques ou vos commentaires, c'est sur Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance, et tout nouveau également sur Facebook.
Alors dans un instant, donc on parlera des sorties ciné, les tops et les flops. Côté français et côté américain, vous allez voir, il y a des sacrées surprises.
Tout de suite dans La Grande Séance, les sorties ciné.
Alors on va commencer par les Américains, ce qui marche bien, et ça c'est des chiffres tout chauds de ce soir. Hein. Ce qui a bien démarré quand même, c'est Hunger Games, même s'il n'a pas démarré aussi bien que le dernier épisode de la saga, puisqu'il est à ce soir, en deux semaines, à 1 970 000 entrées. Ce qui est pas mal du tout, voilà, en deux semaines. Et Le Voyage d'Arlo, 600 000 entrées en première semaine, c'est pas mal du tout aussi pour un film d'animation qui démarre bien. Ça c'est côté top américain. Flop, vous avez une idée du plus...
Docteur Frankenstein ? Non. Je sais qu'il a fait un flop aux États-Unis.
Il y a un flop qui est en même temps un événement incroyable. On devrait faire un papier là-dessus. Quelqu'un qui est considéré comme l'un des plus grands cinéastes de la planète.
C'est Mekis, non ?
Non, et qui a fait 19 000 entrées exactement France première semaine, Terrence Malick.
Ah oui, c'est vrai.
Quand même,
c'est vrai.
C'est quand même dingue.
En même temps,
Terrence Malick, on attendait toujours avec sa boîte de pellicule sous le bras à Cannes, qui est le dieu vivant.
Il
a fait Knight of Cups. 19 000 entrées France
c'est pas
première semaine.
À mon avis, c'est pas qu'il commence à lasser. Je pense que c'est un vrai problème vers lequel Hollywood se dirige aujourd'hui, c'est qu'ils ont un problème hors des franchises, ils ne savent plus vendre un film.
Vous pensez qu'il a été mal vendu ?
Ah ben, on n'en parle pas.
On en parle pas.
Aujourd'hui, c'est vraiment le problème du cinéma, c'est qu'hors des franchises, on ne parle plus des... Le Zemeckis, ça a été pareil, hein. Personne n'en a parlé.
Autant le Zemeckis était mal vendu, autant les films de Terrence Malick, maintenant, c'est un cinéma plus...
Oui, mais quand même...
La merveille a déçu, donc du coup, peut-être que les gens étaient un peu refroidis pour Knight of Cups.
Non, mais c'est vrai que ce que dit Patrice Giraud, c'est qu'on n'en a pas parlé. La preuve, c'est que je vous pose la question, vous citez Zemeckis,
ouais,
vous citez Frankenstein, vous citez pas Terrence Malick.
Ouais,
donc
vrai.
Il est sorti dans l'indifférence la plus totale. Bon, voilà côté américain. Alors, Spectre continue bien, hein. Spectre est à exactement 3 875 000 spectateurs, le James Bond, et il est dans le monde à 700 millions de dollars. Il en a coûté 300, mais il ne battra pas le record de Skyfall qui a gagné 1 milliard 100 millions de dollars, mais enfin il va aller vers les 800, 900, 1 milliard de dollars. Donc Spectre, James Bond se porte bien. Côté français, la bonne surprise, c'est Ange et Gabriel, qui, je vous le rappelle, est sorti deux jours avant les attentats du 13 novembre et qui est à 600 000 entrées. C'est pas mal du tout. Et L'Hermine, de Christian Vincent, qui est à 700 000 entrées en deux semaines. Donc, pour du cinéma français avec un marché qui est assez faible en ce moment, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que autant on parle des salles de spectacle qui ont été désertées à cause des attentats, autant quand on fait un rapide calcul, depuis les attentats du 13 novembre, il y a quand même 5 ou 6 millions de personnes qui sont allées au cinéma. Donc le cinéma
Néanmoins, ils ont du mal. Hein.
Ils ont du mal, mais attention, il ne faut pas confondre l'effet attentat et le marché qui se porte très mal. Moi, je suis des chiffres depuis le 1er septembre, ils se portent très mal. Et je trouve dans un marché assez nul avec les attentats, à chaque fois, on voit des pertes sur Angers Gabriel sur la mine, mais des pertes assez minimes. Donc voilà pour les tops et les flops côté américain, côté français. On se retrouve dans un instant avec nos blogueurs.
La grande séance, les blogueurs font leur cinéma.
Tiens, et si je commençais par Tiffany, honneur aux dames. Pardon, non, c'est parce que je pensais à Alexis.
Ah, ben merci.
Alors, et en plus, on parle tout de suite de Star Wars. Star Wars, il y a un côté, alors on en a dit mythique, conte, et vous dites qu'il y a un côté shakespearien, Tiffany.
Ah oui. Complètement.
Allez-y, développez.
Bah, hormis le fait que j'ai grandi devant ces films comme beaucoup de gens et que du coup j'y suis un peu attachée affectivement parlant, en fait j'ai l'impression que, enfin c'est pas une impression, je pense que George Lucas en fait s'est réapproprié plusieurs genres, dont déjà le conte de fées en fait, où on voit ce prince secourir la demoiselle en détresse et terrasser le méchant, mais il le refait à sa sauce science-fiction, et il y rajoute aussi un peu de religion chrétienne, avec ces espèces de Jedi qui sont en fait des espèces de prêtres samouraïs, et en plus en effet, je ressens quelque chose de shakespearien autour de l'histoire d'Anakin Skywalker, parce que pour moi avant tout Star Wars c'est l'histoire d'Anakin Skywalker, de son enfance jusqu'à sa mort, et pour moi c'est vraiment enfin, shakespearien, mais même une tragédie grecque, on peut dire, parce que vraiment, parce que au-delà de suivre le parcours d'un Jedi, c'est comment il a basculé du côté obscur pour venir du côté du bien, grâce à l'amour de son fils. Enfin, c'est pas quelque chose de lisse ou de manichéen. On est vraiment dans une zone grise où c'est pas juste les méchants contre les gentils. Les méchants peuvent devenir méchants, les méchants peuvent devenir gentils, etc. Bon, c'est un peu simpliste, la manière dont j'explique ça. Mais moi, quand je regarde Star Wars, je ressens vraiment ce côté presque théâtral, mais voilà, shakespearien, vraiment des personnages torturés, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez de son analyse, Patrice?
Elle a tout compris à Star Wars. George Lucas, la fois que je l'ai vu sur le tournage de l'épisode 3, m'avait dit j'ai fait un. Pour moi, Star Wars, c'est un soap opéra. C'est le cousin qui épouse sa cousine, l'oncle n'est pas content. Et c'est une histoire familiale, c'est pour ça que ça nous touche. Ouais. Et effectivement, il y a du Shakespeare, il y a de la romantique, il y a du Ulysse, il y a du roi Arthur, il y a tout mélangé, mais d'une manière géniale.
Alexis, on va parler d'un grand, qui n'est pas Lucas, mais Spielberg.
C'est un de ses grands amis, justement.
C'est un de ses grands amis, justement. Belle liaison.
Avec son
Le Pont des Espions.
Voilà, son tout nouveau film, donc Le Pont des Espions, qui sort aujourd'hui.
Absolument.
Donc à voir absolument, parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré ça, donc... Spielberg, depuis, on va dire, Cheval de Guerre, Lincoln, il fait vraiment les films qu'il aime. C'est les films de John Ford, les films de la grande époque d'Hollywood. Et là, maintenant, il fait vraiment son petit bonhomme de chemin, tranquille. Il s'en fiche des critiques. Il fait vraiment les histoires qu'il a envie de raconter. Et donc, ce film-là, vite fait, le pitch, c'est Tom Hanks qui joue le rôle d'un avocat d'affaires dans la fin des années 50, je crois. Et... il se retrouve à devenir l'avocat de la défense d'un espion russe qui a été découvert aux États-Unis. Donc, juste après, on est tout juste après le McCarthyisme, on est complètement dans la psychose d'une guerre thermonucléaire avec l'URSS. Donc, c'est déjà assez fort comme contexte. Le scénario est signé des frères Cohen, en plus, donc c'est encore mieux. Et. Son histoire, son parcours, donc c'est basé sur des faits réels, enfin, en tout cas sur une histoire vraie. Et tout ça va l'emmener à devenir littéralement donc un défenseur de la justice face on va dire à l'obscurantisme politique, puisque tout le monde aux États-Unis veut tuer cet espion juste parce qu'il est russe, pas parce qu'il a des convictions politiques, non, juste parce qu'il est russe, il mérite de mourir, alors que le personnage de Tom Hanks, il est américain, il croit en l'Amérique, il croit dans les valeurs portées par la Constitution, il dit non, je me tiendrai avec la justice, quoi qu'il arrive, et je défendrai cet homme, quoi qu'il arrive. S'il est coupable, il sera coupable. S'il n'est pas coupable, il n'est pas coupable. Mais il n'est pas prêt à trahir sa vision de la justice. Et c'est vraiment les héros classiques qu'on voit dans les films américains, les Frank Capra et tout ça.
Alors moi, Alexis, je me permets, puisque je l'ai vu et que je l'ai égratigné sur une autre antenne, vous ne trouvez pas que la mise en scène, que c'est un petit peu vieillot tout ça, que c'est un brin académique? Parce qu'on avait parlé ici, je crois, d'un homme très recherché, autre film d'espionnage fait par Anton Corbijn avec Philip Seymour Hoffman, c'était un de ses derniers rôles, et c'était vachement plus au cordeau, plus fort. Là, il y a un petit côté musique appuyée, mélo, la scène de la fin quand la femme retrouve son mari, je dévoile rien, qui est censé être parti pêcher en Écosse, tout ça, c'est très appuyé, non?
Pas tant que ça, justement, parce qu'il y a plein de petits détails justement qui manquent, qui démontreraient que ce serait appuyé. Là, pour le coup, c'est très en surface, il y va pas à fond. Là, je spoil pas, mais c'est juste la toute première scène où, en fait, on découvre l'espion, ouais, qui est un vieux monsieur qui est en train de peindre son propre reflet.
C'est beau, ça.
Voilà, on le voit une fois dans l'image, deux fois dans l'image, dans son reflet, dans le miroir, trois fois dans sa version peinte sur la toile. Le personnage est déjà triple. On n'a pas de musique, pour le coup. C'est le premier film de Spielberg qui s'ouvre sans musique.
Mais moi, je trouve que le début est très prometteur. Mmh. J'ai été pris par le début et j'ai trouvé que la fin était un peu plus plan-plan.
Le film est coupé en deux.
Absolument.
Sans révéler le contenu du film, le film est littéralement coupé en deux. Il y a la première partie qui est très film de procès,
ouais,
qu'on connaît bien des Américains, et la deuxième partie, on est plus dans le thriller d'espionnage qui part vraiment plus dans le contexte de la guerre froide.
Et comme l'espion russe l'appelle souvent, je crois, l'homme debout, en parlant de l'avocat, je trouve qu'ils auraient pu prendre un titre, un homme debout, c'était plus beau que le pont des espions, qui est un peu lourdingue. Mais enfin bref, voilà, on est d'accord.
C'est à voir.
Jean-Christophe Nurbel, alors vous nous conseillez d'aller voir l'expo Scorsese, dont on parle pas beaucoup, mais qui doit être très belle.
Exactement, que je viens de découvrir il y a pas longtemps, et avant que Star Wars occupe tout l'espace, je me dis, autant en profiter pour en parler quand même de Scorsese, qui a marqué quand même l'histoire du cinéma. Ouais. Et qui continue de le marquer. Donc j'ai fait en quelque sorte un top 5 des choses qui m'ont plu dans cette exposition. Et la première chose qui m'a plu, c'est les panneaux explicatifs de l'exposition, qui sont en français, en anglais évidemment, et aussi en italien. Et j'ai trouvé ça super, puisque l'Italie, c'est très important pour lui, ses parents sont d'origine sicilienne. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Après, évidemment, il y a le plaisir qu'on a dans ce genre d'expo de voir des extraits de films. Donc les extraits cultes de Raging Bull, de Mean Streets, des Affranchis et tout ça. Enfin, c'est un vrai plaisir de revoir tous ces extraits. Après, il y a tout ce qui est documents techniques, avec le plaisir qu'on a. On avait vu sur Peter Jackson pour ses making-of, c'est-à-dire qu'il fait ses storyboards à la main. Du coup, de voir des petits storyboards dessinés par Martin Scorsese, c'est assez rigolo, comme on a pu voir chez Peter Jackson. La quatrième raison qui m'a plu, la quatrième chose qui m'a plu dans cette exposition, c'est sa passion qu'il a eue pour Hitchcock, qu'il a vraiment beaucoup aimé. Et j'ai notamment découvert quelque chose que j'ignorais, c'est qu'il a tourné un film publicitaire qui est un remake de L'homme qui en savait trop, de la fameuse scène de la cymbale du meurtre, et qu'il a tourné pour une marque d'alcool espagnole. Pas au début de sa carrière,
pendant sa carrière.
En 2007.
Ah ouais, voilà. C'est extraordinaire.
Et c'est juste. C'est très très drôle.
Et on attend un film pour 2016, je crois, Silence, une histoire de religieux à une certaine époque, enfin dans le passé. Oui, on attend son prochain film, donc et une série qu'il a produite qui s'appelle Vinyl, et dont on va beaucoup parler. Hein, sexe, on nous promet sexe, drogue et rock'n'roll, produit par Scorsese, ça va être super bon. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité.
Tout de suite dans la grande séance, l'interview.
Patrice Giraud, alors d'abord, j'aimerais bien que tous ceux qui nous écoutent sachent qui vous êtes exactement et d'où vous est venue cette passion incroyable et inextinguible pour la saga.
Ça a commencé en 77, quand je suis allé voir Star Wars à 10 ans, où comme toute ma génération, on a été littéralement transporté dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'identification. J'ai été Luke Skywalker pendant 2 ans. Et puis après, j'ai été fasciné par l'homme. C'était pour moi le visionnaire. C'est pas tant le cinéaste, mais l'homme George Lucas, qui était l'homme qui a tout changé dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il a effectivement, il y avait la boîte d'effets spéciaux. Puis après, il a créé Indiana Jones avec Spielberg. Et puis, il a créé le THX, qui finalement a révolutionné le cinéma. Le son au cinéma et dans nos maisons.
Et puis il a créé le montage virtuel. Et puis après, il a fait son Skywalker Ranch, qui était une sorte de mythe. Enfin, voilà, c'était. Et puis il y a eu les jeux vidéo avec LucasArts, qui était le premier gars à Hollywood à faire du jeu vidéo à partir de films. Donc il faut comprendre que dans les années 80, Lucas, c'était pas uniquement le gars qui a fait Star Wars, c'était un gars qui a chamboulé notre vie à tous les niveaux. Dans le monde de l'entertainment.
Et qui a inventé une nouvelle mythologie, quoi, une mythologie moderne.
Et puis un nouveau type de cinéma avec Spielberg, c'était vraiment les Wonder Boys, hein, c'est les gars qui ont insufflé ce nouveau souffle à Hollywood.
Mais comment vous êtes passé de l'admiration à une admiration active, j'ai envie de dire?
Ah bah, un truc de dingue, c'est que, alors justement, on en parle dans notre livre, c'est que lors de la convention en 87, les 10 ans de Star Wars, mon ami Arnaud me ramène un bulletin, premier bulletin du fan club Star Wars américain, Lucasfilm. Et je lui ai dit, bah écoute, ça serait génial de faire ça en France. Et donc j'ai demandé à l'époque, moi, grand naïf, à avoir les droits de George Lucas pour faire le magazine en France. Alors ça a pris un peu de temps, ils ont fait le tour de tout Paris, hein, Philippe Aki. Tout le monde a dit « ça ne nous intéresse pas ». Ils sont venus me voir. Et, oui, aujourd'hui, ça change. Ils sont venus me voir. Ils ont Patrice. « Ok, bah, tu coûtes tel sol, on te suit. » Et j'ai créé le premier magazine Star Wars à l'international en 95. Et ça a duré 15 ans. Voilà.
Et ensuite, petit à petit, vous avez eu des liens avec Lucas et toute son organisation.
Ah oui, alors, faut comprendre qu'à l'époque, c'était une société... quelque part un peu même familial. Il y avait trois personnes au licensing. George, il était là, il mettait un petit drapeau en haut de l'immeuble, de son ranch quand il était là. On lui disait bonjour. Moi, je suis allé sur les tournages, j'ai pu déjeuner avec lui. Moi qui suis cinéphile, je me suis retrouvé à chaque fois sur les tournages pendant une semaine, debout derrière lui, à le regarder travailler.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est quand même génial. Ouais. Aucun journaliste au monde n'est allé sur les Star Wars, à part Annie Leibovitz venir faire des photos. Ouais. J'avais un privilège incroyable.
Et ça, c'était pour lesquels alors?
Alors, l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Donc, j'ai eu un privilège incroyable. C'était une relation avec tous ces gens-là, mais c'était une autre époque. Et après, ils ont fait appel à moi pour les expositions, notamment la première exposition Star Wars à la Cité des Sciences en 2005. Où j'ai écrit le scénario et choisi les objets, et ça reste à ce jour le plus gros succès pour une expo Star Wars dans le monde avec 750 000 visiteurs. Voilà. Et depuis, donc, je suis dans le monde des expositions, je monte des expos Star Wars et autres.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? On sait qu'il y a quelques années, Disney a racheté la franchise à George Lucas. D'abord, pourquoi il a vendu? Il est âgé, il a envie d'avoir un peu d'argent de poche.
Alors moi, j'ai une théorie, c'est ma théorie, hein,
ça n'engage que
moi, mais c'est vraiment la théorie du maître et de l'esclave.
C'est-à-dire
George est quelqu'un d'indépendant, qui a toujours été indépendant, et quelque part, avec ses Star Wars, il avait quand même ses ranchs, le Presidio à San Francisco, 1200 employés. C'est vrai qu'il y a un moment, il faut faire tourner la bête, quoi. Et il y a un moment, il fallait refaire une nouvelle trilogie. Et il avait 70 ans. Il ne se voyait pas repartir pour 10 ans. Mmh. Et puis, il a pas quelque part, ses enfants, ses héritiers n'étaient pas dans le truc. L'erreur, je pense, c'est qu'il n'a jamais pris quelque part un jeune réalisateur sous sa coupe. Sa coupelle et de faire un mentor
de transmettre.
Il a toujours fait que pour lui. Donc, il avait soit il fermait,
Soit il vendait,
et bah, même s'il a dit qu'il ne le ferait pas, bah, il l'a vendu. Et puis voilà, au moins vis-à-vis de ses héritiers, tout est réglé. Ouais. Et aujourd'hui, bah, il fait autre chose.
Et est-ce qu'il y avait, c'est une question naïve, mais c'est souvent les plus intéressantes, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aurait pu acheter?
Ah bah, les Chinois, Microsoft, tout le monde aurait pu acheter.
Et qui a choisi? C'est lui qui a choisi Disney?
Je pense qu'il a choisi Disney. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment fait beaucoup de démarches autour. Je pense que c'était assez secret. Ben voilà, Lucas, c'était
Disney,
lui-même.
Ça restait dans la maison.
Non, mais Lucas est lui-même un fan de Walt Disney. Ouais. Parce que c'était le visionnaire, voilà, ça lui a changé sa jeunesse.
Moi, je me souviens, on en parlait ensemble, on parlait du Nouvel Hollywood, cet excellent bouquin là, de Peter Biskind. Et à l'époque, il disait Lucas à Coppola, qui était son pote aussi, je voudrais faire un truc genre Disney. La première fois qu'il a commencé la trilogie, il voulait faire un truc pour les enfants. Quoi.
Mais tout à l'heure, elle a eu raison quand elle dit c'est un conte de fées, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est un conte de fées, George Lucas le dit. Les contes de fées, on commence par « Il était une fois ». Et c'est pour ça que ça commence par « Il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine » pour bien faire comprendre que ce n'est pas de la science-fiction. Vous allez voir des chevaliers, vous allez voir des épées laser, vous êtes dans quelque chose de mythologique.
Oui. Dans le Nouvel Hollywood, ils disent qu'il avait envie de faire un truc mythologique pour les enfants, pour les jeunes, parce qu'il n'y en avait plus à l'époque, au début des années 70. Ouais, il avait envie de faire ça. Alors, on a trois questions, Nicolas.
Oui, il y a plusieurs questions. Alors déjà, une question assez générique de Claire Fayot, qui demande donc sur Twitter, Séance Radio, elle voudrait savoir à partir de quel âge on peut montrer Star Wars à un enfant.
Ah, très bonne question.
Bah, je pense que le tout premier... Il y a deux choses. C'est-à-dire que là, il y a déjà les deux trilogies. Il y a la trilogie originale, 4, 5, 6, et les 1, 2, 3 qui ont été faits après. Les 1, 2, 3 sont plus politiques, plus sombres. Il y a le passage de Anakin qui devient Dark Vador, qui n'est pas franchement un passage très agréable. Moi, j'ai vu des enfants pleurer quand tout d'un coup, ils découvrent que le héros, c'est Dark Vador.
Tiffany, vous avez pleuré ?
Non, mais à 6, 8 ans...
Vous aviez quel âge, vous ?
Bah, c'était il y a deux jours.
Non, mais à 6, 8 ans, ça peut traumatiser.
Ouais.
Par contre, le Star Wars original... La guerre des étoiles, pour moi, c'est un peu le magicien d'Oz de la science-fiction. Mmh. Donc, ce film-là, je pense qu'à partir de 6-7 ans, on peut le montrer sans problème.
La première trilogie.
Ouais.
Voilà, les
4-5-6. Mais les gens, généralement, le montrent à leurs enfants bien plus tôt. Puis ils découvrent les... Et finalement, ils découvrent même pas les films, ils découvrent d'abord les jouets Lego. Mmh. Et tout d'un coup, ils découvrent un jour qu'il y a des films.
Ouais. Quelqu'un disait que c'était pas très violent, Star Wars. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Très rarement, on voit les...
Ouais.
Sauf sur les nouveaux films, notamment La Revanche des Sith, où c'est une décapitation. Et bon, c'est pas
Il y a une volonté de faire un film pour le plus grand public possible en même temps. Donc, pour pouvoir le partager avec le plus grand monde possible, on ne peut pas faire des décapitations et tout ça.
Mais c'est très propre. Génial, c'est qu'il n'y a pas de sang, mais en même temps, il y a une explication logique à l'absence de sang, vu que avec grâce au sabre laser,
ça cautérise
directement. Donc, du coup, ça passe, quoi.
Non, mais c'est pas du Brian De Palma, quoi. Ouais. Voilà.
Nicolas ?
Alors, question sur l'épisode 7 de Coca-Cola, aucun rapport avec la marque. Qu'est-il arrivé aux petits-enfants de Dark Vador ?
Ah ! Non, mais là, il veut avoir des infos sur l'épisode 7. Ah, ah ouais, on doit pas dire l'épisode 7, c'est vrai. On va savoir ce qui se passe dans le nouveau film. Alors, les petits-enfants, c'est donc soit les enfants de Luke Skywalker, soit les enfants de la princesse Leia. Donc on espère les retrouver dans le nouveau film.
Ouais.
On sait juste que George Lucas avait écrit effectivement une nouvelle trilogie pour Disney, où lui s'était basé uniquement là-dessus, sur les petits-enfants.
Mmh.
Bon, ça n'a pas plu apparemment aux équipes de Disney, et
Ils ont tout réécrit, mais en faisant quand même appel à un scénariste qui avait été dans la première trilogie.
Alors il y a Michael Hunt qui a écrit le premier jet. Et effectivement,
Lawrence Kasdan est venu.
Et J.J. Abrams ont fait une repasse, ont réécrit dessus une nouvelle version. Et eux, apparemment, ont fait un mix entre les anciens personnages, les nouveaux personnages, quelque chose de plus transitif, quoi. Bon.
Une troisième question, Nicolas ?
Autre question sur l'épisode 7. Il y a CH1 qui nous demande quel est, à votre avis, le nouveau sabre laser qu'on voit dans la bande-annonce, donc le sabre laser de Kylo Ren. À quoi il correspond ?
Alors là, aucune idée. On voit juste que c'est un sabre laser qui est cryptique, mais qui a l'air d'être plus... on voit bien par le laser, il a l'air d'être... C'est-à-dire qu'il a été fabriqué d'une manière non catholique, quoi. Mais bon, c'est pas le bon terme, mais... voilà, on sent qu'il a l'air d'être fabriqué par le personnage, voilà, qui a l'air de... Ce n'est pas un héritage.
Après, avec la menace fantôme, on avait le sabre laser double de Darth Maul. Dans le 2, on avait le sabre avec le manche courbé du Comte Dooku.
Ça fait référence aussi que dans les films, on devient Jedi quand on sait faire son sabre laser. Et donc là, on voit que c'est un Sith qui n'a peut-être pas tout le savoir pour le faire, mais qui a essayé d'en faire un qui fonctionne plus ou moins bien. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, Patrice, des acteurs? Vous avez vu, bon, il y a les vieux de la vieille qui restent, et il y a des nouveaux qui arrivent, il y a notamment Oscar Isaac, c'est ça?
Oscar Isaac, oui.
Qui vient plutôt d'un cinéma à télo qu'on avait vu dans le film
Inside Llewyn Davis, des
frères Cohen. D'après vous, c'est une envie de Disney d'élargir un peu, de rajeunir, de...
Il faut réajeunir, et quelque part c'est important, car Star Wars, pour moi, le film de 66-7, c'est une ode à la jeunesse. C'est pour ça que ça nous parlait quand on était enfant. C'était l'histoire d'un jeune ado à qui il arrive des histoires fantastiques. Maintenant, je pense plutôt que là, le parti pris, et ça c'est le cas chez Marvel partout, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé c'est du marketing, c'est que le marché des geeks est arrivé à un marché mature. Et donc, le nouveau marché pour les grands studios hollywoodiens, c'est le marché des filles. Voilà.
Ah oui.
C'est pour ça qu'on va avoir Spider-Woman, Wonder Woman. Et comme par hasard, le personnage de ce film est féminin, c'est Rey.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que le héros principal est une femme.
Ah bon, du celui nouveau. Qui arrive là.
Voilà.
Donc, parce que moi, je suis pas très au courant. Moi.
Ce n'est plus Luke, un personnage masculin, c'est Rey, c'est un personnage féminin.
Est-ce que c'est pas plutôt un duo qu'elle formerait avec Finn?
Ah bah oui, c'est un duo. Voilà. Mais tout d'un coup, pour la première fois de l'histoire de Star Wars, le personnage principal va être féminin. Je pense que c'est pas par hasard.
Et justement, à ce sujet, Patrice Giraud, est-ce que vous pensez que Disney a pu délayer la sauce Star Wars parce que c'est l'Empire Disney, qu'ils n'ont pas la même vision du cinéma tout à fait que George Lucas? Qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde attend et tout le monde se dit, est-ce que maintenant que c'est Disney, ça ne va pas changer d'esprit? C'est très difficile quand même. C'était très collé à Lucas.
Ah oui, non, mais ça, c'est pour moi, les six Star Wars, c'est un film d'auteur quelque part. Hein. C'est la vision de George Lucas.
Et là, il n'y est plus.
Et là, le problème, c'est effectivement, c'est est-ce que les nouveaux réalisateurs, et puis le problème, c'est que ça va changer de film en film, vont-ils maintenir cette uniformité que Lucas avait réussi à faire, surtout visuellement sur six films?
Et attends, je fais une petite parenthèse que je reviens vite. Lucas n'a plus droit de regard.
Plus rien.
Il a vendu, c'est terminé. Donc c'est Disney qui fait. Donc je referme la parenthèse. Vous pensez
que
ça va
aujourd'hui,
ça peut marcher?
Faut pas s'inquiéter sur le côté ça va se transformer en une comédie musicale où ils veulent que ça devienne niais. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas Moi je pense par contre que quelqu'un comme Abrams n'a pas 100% du contrôle. Vous avez acheté 4 milliards une franchise, ça doit ramener des dizaines de milliards sur les plus. Il ne peut pas avoir 100% du contrôle. Donc, il a forcément répondu à des demandes du groupe. Mais voilà, par exemple, de dire, ça serait bien que le personnage du prochain film soit une femme. Voilà, c'est juste des demandes spécifiques pour orienter le film. Mais après, l'essentiel, c'est qu'il nous fasse une histoire, qu'il nous fasse rêver, que l'histoire soit bonne, surtout. Voilà. Mais je ne crois pas, de façon, dans le côté, ça va se transformer en Dark Vador avec des oreilles de Mickey. Ça ne faut pas s'inquiéter là-dessus.
Une question sur Twitter.
Oui, alors c'est la grande question. Dans quel ordre faut-il voir les trilogies, à votre avis?
Alors, moi, j'ai un avis très, très tranché là-dessus. Il faut le voir dans l'ordre de fabrication. Tout simplement parce que la manière dont ont été écrits les scénarios, ça a d'abord été 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. Alors, si vous les regardez dans l'ordre, il y a une logique d'histoire, mais le problème, c'est que vous cassez des ressorts scénaristiques. Et donc, il y a certains effets qui ne marchent plus quand vous les regardez dans l'ordre, parce que vous êtes déjà au courant. Donc, mieux vaut les voir dans 4, 5, 6, et comme nous, découvrir ce qui s'est passé avant. Un peu comme le parrain, quoi.
Alors, moi, j'ai une question. Vous qui êtes très proche, qui étiez très proche de Lucas, cette stratégie du secret, elle a été maintenue, elle a bien marché, d'après vous, ça a très très bien fonctionné, je crois qu'ils ont lancé comme ça des teasers, et est-ce qu'on a appris quand même quelque chose, ou tout ça c'était un peu de la désinformation?
Alors déjà, ce film-là est encore plus secret que tous les
J'ai
autres.
J'ai l'impression.
Ah oui, parce que même avant...
Jamais on a vécu ça.
Jamais avant, il y avait des making-of qui ne révélaient pas grand-chose, mais il y avait une vraie communication vis-à-vis de la communauté des fans, alors que là, ils ont fait un blocage complet. C'est peut-être mieux avec l'ère de l'iPhone et tout. Aujourd'hui, tout est piraté facilement.
Ils ont réussi en tout cas à faire
ils ont bien réussi, oui, ils ont bien réussi. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui ont transpiré. Il y a beaucoup de rumeurs, comme toujours. Bon, c'est pas très intéressant de toute façon.
Donc on ne sait pas. Vous avez des questions?
Après, nous, on nous inonde.
Alexis.
Là, ça c'est depuis un mois qu'on nous inonde quand même de bandes-annonces. Parce que pendant,
oui, c'est très étonnant,
pendant
ça,
très longtemps, on avait juste une bande-annonce avec peu de plans qui ne nous expliquaient pas forcément l'histoire. Mais là, ces derniers mois, on a spot télé sur spot télé, nouvelle bande-annonce.
Oui, alors que sur les 3D Star Wars et même la plupart des films, il y a un teaser et après un trailer A et un trailer B. Point barre.
Il y avait trois bandes-annonces maximum et voilà.
Là, on en est à spot 11 ou 12. c'est assez étonnant, oui.
Il y a le métro aussi qui est couvert maintenant. Oui. Campagne d'affichage.
Place d'Italie.
Je trouve que les bandes annonces, même s'il y en a 12, c'est un peu tout le temps les mêmes images, donc mis dans un ordre différent. Donc finalement, je trouve pas qu'elles en révèlent.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'elles dévoilent toujours quelque chose. Et puis elles sont. Si j'aurais un reproche à faire, mais c'est du marketing pur, je trouve qu'elles sont très disparates en fait. Il y en a qui sont, elles n'ont pas le même souffle épique, il y en a qui le sont moins, c'est leur choix.
De jouer sur différents tons à chaque fois.
C'est pour plaire à tout le monde.
Pardon. On se retrouve dans un instant après une pause musicale. We'll be right back. êtes toujours à l'écoute de cette grande séance avec notre invité Patrice Giraud, un des grands spécialistes de Star Wars, puisqu'on parle de ce film très attendu depuis le début de l'année 2015, qui sort mercredi prochain, enfin pas mercredi prochain, l'autre mercredi, je vous ai fait une fausse joie, le mercredi 16, mais enfin deux jours avant les Américains. Donc ça c'est un... Alors comment ils nous font un cadeau pareil, Patrice Giraud ?
Je pense que c'est lié... que les vacances en France ont lieu vendredi soir.
Ouais.
Donc si vous voulez faire un bon box-office, il vaut mieux que les gens puissent aller au cinéma que, plutôt qu'aller sur les routes ou dans les trains.
C'est une très bonne idée. Vous voyez qu'ils pensent vraiment à tout.
Ah, bah c'est le...
Vous savez que vous pouvez vous poser vos questions, Nicolas.
Vous pouvez vous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag La Grande Séance. Il y en a une question d'ailleurs d'Antoine Corte, qui est, à votre avis, le lien des fans de Star Wars peut-il être aussi fort avec J.J. Abrams qu'avec George Lucas ?
Ah, question.
Non.
Clairement non, parce que George Lucas était, c'est le créateur. Lucas c'était le créateur. J.J. Abrams ce n'est pas le créateur, il reprend le flambeau, donc il va marquer son époque, son truc. Mais dans 10 ans, je pense pas qu'on se rappellera de J.J. Abrams comme on s'est rappelé de George Lucas. Puis George Lucas, il a créé Star Wars, et puis pour ma génération, il a créé Indiana Jones, une fois de plus le THX. Enfin, c'était et c'est ça qu'on adorait en fait. Aussi, c'est que c'était de voir des jeunes prendre le pouvoir sur Hollywood de manière indépendante et de réussir. C'était aussi, pour nous, ça nous faisait rêver. On a tous voulu devenir le prochain George Lucas. On dirait, j'espère pouvoir créer un truc comme ça, devenir indépendant, avoir mon studio, mon ranch. Voilà, c'est quand même, ça fait rêver tout le monde. C'est des parcours incroyables. J.J. Abrams a peut-être effectivement ce parcours-là dans le monde de la télé grâce à Lost ou ce genre de choses, mais en termes de cinéma, il n'a pas encore fait pour moi son American Graffiti ou son
THX. C'est ça qui m'a étonné, Patrice Giraud, c'est que moi je connais J.J. Abrams comme tout le monde à partir de Lost, et puis quelques trucs qu'il a fait, mais pourquoi il a été choisi lui ?
Parce
qu'il n'a pas fait de cinéma encore, pas beaucoup, enfin, il n'a rien prouvé.
Il les franchises.
C'est-à-dire que c'est Mister Franchise, c'est le roi de la franchise, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse le prochain Indiana Jones d'ailleurs, mais voilà, il a.
C'est
pas...
un bon faiseur ?
Je sais pas, il a repris Star Trek,
Mission Impossible.
Les Star Trek sont pas, quand on regarde le box-office, c'est pas non plus incroyable, hein, ça fait 400 millions de dollars. Mmh. Les films sont ce qu'ils sont, voilà. Mais à Hollywood, il rassure les actionnaires, il rassure, c'est un monsieur voilà, qui a une belle image de marque dans les médias et partout, parce que c'est J.J. Abrams, donc voilà, c'est Hollywood, c'est ça aussi, c'est que vous prenez des réalisateurs qui rassurent les médias, les actionnaires. C'est pour ça que Colin Trevorrow, qui a quand même un parcours cinématographique très léger, il a eu de la chance, le gars. Il fait Jurassic World
et là, ça marche en plus.
Et maintenant lui fait il a Star Wars, et voilà, il rassure, parce que c'est un gars qui a fait un film qui a fait 1,5 milliard, voilà.
Ouais, tout est dans la finance. Une question sur Twitter.
Oui, Kiwi47 vous demande si vous avez des infos à révéler sur Rogue One, le premier spin-off de Star Wars.
Écoutez, à part que c'est vraiment, je dirais, ça va être un nouveau souffle pour la saga Star Wars. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment... et c'est peut-être intéressant d'ailleurs, c'est de partir sur une nouvelle voie. C'est de se dire, on va plus faire ces films classiques qui sont les épisodes d'une grande saga, et on va aller sur des spin-offs. Grosso modo, c'est un peu les têtes brûlées version Star Wars. C'est un escadron de pilotes de X-Wing qui doivent récupérer les plans d'étoiles noires. Et de se dire, on va peut-être le traiter d'une manière moderne avec un jeune réalisateur, essayer de faire peut-être quelque chose de nouveau, un peu comme ils ont fait avec Marvel et les Gardiens de la Galaxie. Quoi. Finalement, arriver avec un film qui est vraiment différent de tout ce qu'on attend généralement dans cet univers-là.
Dans un instant, on se retrouve avec la séquence événement.
La grande séance, l'événement du mois.
Alors, c'est un grand événement puisque c'est le fameux Mobile Film Festival dont le thème cette année était en lien avec la COP21, c'était sur le climat. Le concept, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez un mobile, vous avez une minute et vous faites un film. Et il paraît qu'il y a des petits bijoux dans le genre. Donc, l'appel a remporté un grand succès puisqu'il y a eu 765 films reçus de 70 pays. Donc, vous voyez, c'est devenu totalement international. Tous les thèmes, donc, on parlait du changement climatique, ont été abordés, l'eau, l'air, les déchets, la pollution sous toutes ses formes. Et puis surtout, on a parlé aussi du futur de l'humanité, mais surtout ceux qui ont participé au Mobile Film Festival. festivals l'ont fait à travers des films d'humour, d'horreur, à travers des petits documentaires, sous forme d'interviews, avec pour thème la musique, le drame, la science-fiction. Donc le public du monde entier a voté sur le site du Mobile Film Festival à propos de ces petits films d'une minute. Et donc l'info, c'est que le lundi 7 décembre, donc lundi prochain, il y aura une grande soirée de remise des prix qui va réunir toutes les équipes de films au Gaumont-Champs-Élysées en présence du jury, et seront remis deux bourses BNP Paribas d'aide à la production d'un court-métrage. Donc c'est pour aider, je dis bien, je précise bien, la production d'un court-métrage, mais vous allez voir que les bourses sont quand même conséquentes. Au lauréat du Grand Prix, une bourse de 30 000 euros, et au lauréat du prix du meilleur film français, une bourse de 15 000 euros. Il y aura aussi prix du meilleur scénario, prix d'interprétation féminine, quand il y a des acteurs, parce que c'est pas forcé dans cette minute, sur un mobile, et prix d'interprétation masculine. Donc vous voyez, le Mobile Film Festival avec cette grande soirée du lundi 7 décembre au Gaumont Champs-Élysées, avec le jury et avec les prix BNP Paribas. Dans un instant, on se retrouve pour un grand débat sur Star Wars.
La grande séance, le débat.
Alors, avant de lancer le débat, je voulais quand même citer un livre imposant. Alors voilà un beau cadeau de Noël, parce que c'est un beau livre, comme on dit aux alentours de Noël. Ça s'appelle « Génération science-fiction ». C'est une affiche de Star Wars en couverture, et c'est signé Arnaud Grimberg et vous, Patrice Giraud. Oui. Racontez-moi cette aventure. Il sort quand ?
Il sort aujourd'hui.
Il
sort aujourd'hui. On est dans l'actualité.
Pile poil.
On est dans l'actualité. Voilà. Alors, c'est pas une affiche de Star Wars, c'est justement... Ça joue à Drouille, il y a un peu d'Harrison Ford dans Blade Runner, Terminator.
Oui, moi j'ai vu Harrison Ford.
Et c'est pas fait par hasard. Et voilà, Arnaud qui est mon compère et mon complice de 30 ans, a réussi à amasser cette collection qui est unique au monde de collections d'objets originaux de science-fiction, que ce soit des peintures, des costumes, des vaisseaux spatiaux grandeur nature.
Là, je vois la planète des singes.
Voilà. Très beau film de Schaffner. Beaucoup de films sont oubliés par les jeunes générations d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui la télé ne rediffuse pas Outland avec Sean Connery.
On parlait de Blade Runner tout à l'heure. Voilà. Blade Runner, c'est pas votre génération, les jeunes là. Vous êtes cinéphiles, mais
par cinéphilie,
hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Blade Runner.
C'est pourtant un des plus beaux films de science-fiction qui existe avec 2001.
Alors donc là, il y a les films des science-fiction des années 80. C'est tout.
Ça va, on va jusqu'à Matrix, parce qu'on a nous on monte des expositions aussi avec notre société, mais on a des pièces de films assez récents. Alors bien sûr, maintenant avec le numérique, c'est très très dur, des fois par exemple sur Avatar, de récupérer des choses. Mais voilà, c'est aussi une transmission. Alors nous, on a un parcours dans le texte qui parle de notre passion et pourquoi on a cet amour pour ce type de cinéma. Mais c'est aussi un hommage à tous les artistes qui ont travaillé sur ces films. Les gens qui ont fait les maquillages, les gens qui ont fait les dessins de pré-production.
Les costumes.
Voilà, et que cinéma, c'est quand même l'œuvre d'un ensemble, d'un groupe. Et donc, si ces films nous ont plu, c'est que derrière, il y avait plein de gens de talent. Les gens qui faisaient les peintures sur verre, les gens qui faisaient les costumes. Et très souvent, moi, mon combat avec les musées, c'est qu'on nous parle toujours des grands tableaux, tout au moins au Louvre, vous n'avez que des tableaux qui viennent des châteaux. Et ce que j'explique aux gens, mais les gens qui travaillent dans les jeux vidéo et les cinémas aujourd'hui, ce sont des artistes d'aujourd'hui. C'est ça, les grands artistes. Mmh. Les gars, dans les tableaux qu'on voit dans les châteaux, c'est quoi ? Des commandes de l'époque, des châtelains qui voulaient leur portrait, mais les gars, fallait vivre. Alors c'est pas parce qu'ils travaillent sur un film que l'artiste, tout moi, le travail n'est pas noble. Et c'est ça qu'on essaie de... Il y a des artistes sur Star Wars, voilà, c'est que George a réussi à réunir la Dream Team, quoi. Mm. Si le film est bien, c'est pas que grâce à George Lucas.
Là, on voit par exemple, à propos d'Alien, un storyboard dessiné par Ridley Scott lui-même, c'est ça,
ça s'appelle un Ridleygram.
Un Ridleygram.
Il dessine tous ses plans et puis il a un style très joli, c'est un très beau dessinateur, il dessine à la manière de Moebius.
Et est-ce que beaucoup de réalisateurs font leur... vous qui êtes un spécialiste de Hollywood maintenant, font leur storyboard eux-mêmes?
Non, très peu, parce qu'il faut avoir l'art du dessin, alors... Monsieur a cité tout à l'heure Scorsese. Spielberg dessine très très mal, mais
Spielberg dessine mal, ça c'est une info.
Mais Spielberg, mais il s'en cache pas, mais il dessine avec des storyboarders. Il fait des dessins très vite, et puis les gars reprennent.
Ah oui, les gars reprennent. Ouais. Voilà. Ça c'est drôle.
Parce que le storyboard doit être un document pour la production. Ça doit transmettre à toute l'équipe le plan qu'on doit fabriquer. C'est un moyen de communiquer d'une manière rapide. et de prévoir la production.
Alors ça s'appelle Génération Science-Fiction, Arnaud Grimbeck, Patrice Giraud.
Merci beaucoup.
De Flash Gordon à Matrix, et c'est aux éditions
Bragelonne.
Alors, on va parler de Star Wars, on va continuer à parler. Évidemment, vous pouvez nous appeler, nous poser toutes les questions que vous voulez à travers... Nicolas, il y a encore une question.
C'est Radio 2 qui vous demande qui a tiré en premier, Greedo ou Solo.
Bah écoutez, moi si je me souviens bien, en 77, c'est bien Han Solo qui a tiré en premier, mais en 97, c'est vrai que tout d'un coup, c'est Greedo qui a sorti son pistolet plus rapidement. Bon, c'est George Lucas qui a changé ça.
Il s'en expliquait dans une interview qui est sortie.
Alors qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Alors justement, il disait que en effet, dans la première version, c'est Han Solo qui tirait sur Greedo, mais ça allait à l'encontre des principes de Star Wars. C'est comme ça qu'il l'a énoncé, et qu'en gros, Han Solo, il le voyait comme un John Wayne. C'est un cowboy, c'est John Wayne, et John Wayne, il tire pas le premier. Il attend qu'on tire d'abord sur lui pour pouvoir ensuite tuer le méchant.
Oui. Bon, le problème, c'est que ça nous avait pas choqué, étant jeunes, en tout cas, ça nous avait pas choqué, parce que quelque part, il avait affaire à une crapule. Donc, il y a un moment, on désingue la crapule, c'est pas honteux, quoi. Le gars, il essaye de vous récupérer de l'argent. Mais c'est marrant parce que Lucas, finalement, n'a pas la même vision du film que nous. Et un truc que les gens oublient, et ça, c'est un truc que Lucas n'avait pas calculé, c'est qu'à l'époque, quand l'Empire contre-attaque est sorti et que Vador dit à Luke Skywalker, je suis son père, je suis ton père, aujourd'hui, tout le monde dit, bah oui, c'est normal, il lui dit. Mais nous, pendant 3 ans, on était persuadés que Vador mentait à Luke Skywalker. C'était pas possible. C'était un moyen de l'attirer de son côté. Et ça, Lucas l'avait pas calculé. Pour lui, c'était vraiment juste de dire « Je suis ton père ». Mais en fait, nous, pendant 3 ans...
Il y a des choses qui lui ont échappé.
Voilà, ça lui a échappé. Et nous, pendant 3 ans, c'était « C'est pas possible. Ça, c'est un coup de Vador. C'est un enfoiré. Il essaye de le soudoyer. C'est pas possible. » Bon, maintenant, aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais voilà, c'est des choses que Lucas n'avait pas effectivement calculées...
Alors là, on est dans notre débat, donc si vous avez des questions à poser, et surtout, vous les jeunes, vous pouvez répondre et donner votre vision de Star Wars. Moi, je vais commencer par être iconoclaste, parce que moi, j'avais 25 ans en 77, quand la première trilogie est sortie, et je ne les ai pas vues, et j'ai vu la deuxième trilogie qui était moins bonne, m'a-t-on dit, qui était plein d'effets spéciaux, et ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. Donc moi, je suis resté un peu à côté de ça. Donc la question est claire, je vais vous la poser à tous les trois avant de revenir vers Patrice. Qu'est-ce qui fait le succès de Star Wars après vous, et pourquoi vous... D'abord, aimez-vous Star Wars? Question. Et si c'est le cas, pourquoi?
Alors, pour ma part, oui. J'avoue que je l'ai découvert quand j'étais petit, donc je pense que je devais avoir 7-8 ans. Et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est le côté Jedi. Alors par contre, on parle beaucoup d'Anakin Skywalker. Alors moi, je n'aimais pas du tout ce personnage. Pour moi, c'était Han Solo, mon héros, que j'aimais voir et revoir.
Mais c'est marrant.
Pas du tout Anakin Skywalker.
Jean-Christophe Nurbel, je vous cite parce qu'on ne vous connaît pas encore bien dans l'émission. Tiffany?
Oui, alors moi, c'est pareil. J'ai découvert la première trilogie, donc les épisodes 4, 5, 7... 4, 5, 6, je ne sais plus compter. Quand j'étais plus petite, c'est mes parents qui m'avaient montré le film. Puis on allait voir en famille, encore une fois, les nouveaux films au cinéma. Donc ça, pour moi, c'est un côté très familial.
Ah oui.
Et je pense que ça marche et que ça plaît parce que... ça fait rêver, voilà, on s'imagine à la place, si on est une fille, Leia, ou les garçons, Luke ou Han Solo, et on s'imagine aussi se battre au sabre laser ou piloter leur vaisseau. Et j'aimerais aussi redire, comme Patrice Giraud, que oui, ce qui plaît aussi, c'est la vision de George Lucas, et ça me rappelle aussi un peu, ça n'a rien à voir, mais Harry Potter. Dans le sens où, c'est une personne qui crée un univers complètement fantastique.
Oui, c'est marrant parce que je pensais au moment où vous alliez le dire à la saga Harry Potter, parce que c'est quelque chose de familial qu'on se transmet les uns aux autres. Vous, vos parents avaient découvert la première trilogie assez jeune.
Oui, je ne sais 77. Pas s'ils sont allés les voir au cinéma, mais oui, ils avaient à peu près 10 ans aussi. Alors, je ne sais pas comment ils ont découvert ça, mais oui, ils l'ont découvert jeunes et ils nous ont transmis.
Comment les uns et les autres vous placez cette saga unique à côté des films que vous aimez, à côté de Scorsese, de Spielberg,
surtout,
Patrice?
Moi, j'aurais juste rajouté, je vois si ça m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui vont voir Fast and Furious, ils me disent que Les Aventuriers de l'Âge Perdu, c'est lent. Alors que nous, à notre époque, c'était un truc qui allait à...
Absolument.
Alors, c'est surtout les premiers Star Wars, ça vous paraît pas trop vieux avec les vieux, les vieilles maquettes, les... Puis c'est un rythme même, le rythme est beaucoup plus lent finalement. Moi, ça me dérange pas, je suis né avec ces films-là, mais vous,
Jean-Christophe,
ça me dérange pas.
Ah non, moi ça me dérange pas du tout. Moi, c'est plutôt la vitesse qui me dérange.
Alexis.
Non, bah moi, Star Wars, je peux difficilement parler objectivement parce que je l'ai découvert à 8 ans en VHS. J'ai énormément de souvenirs de cette soirée où j'ai découvert pour la première fois le premier film. Et après, ma vie a changé.
Tout c'est vrai,
mais littéralement.
Mais comment?
J'ai découvert le film et à la fin du film, j'ai dit je veux faire ça, je veux être dans le cinéma tout le temps.
C'est à travers ce film.
Star Wars. Alors,
moi, j'avais l'anecdote de Christophe Lemaire de Starfix qui lui devait déjà avoir 16 ans à l'époque et lui m'a toujours dit ah oui, mais moi j'avais 16 ans et c'est Chewbacca, c'était un gars dans un costume.
Ah oui.
Et donc, pour lui, c'était déjà. C'était vraiment un film pour enfants.
Ouais, ouais,
alors
c'est
que
drôle,
nous, on est né avec ces films et on ne le regarde pas avec le même œil. Mmh. On prend tout. À but pour compte, voilà, c'est Chewbacca, voilà.
Et Alexis, ça a été une passion, vous êtes devenu un fin connaisseur aussi.
Ça l'est toujours, je travaille, je lis tous les livres qui parlent, en tout cas qui grattent un petit peu sur l'univers de Star Wars, chercher un petit peu derrière le mythe, pourquoi George Lucas a fait tel changement, pourquoi on en est arrivé là à l'épisode 7, qu'est-ce qui va changer maintenant chez Disney, tout ça, ça me passionne énormément, tout ce que ça raconte, même l'amour des fans, parfois irrationnel, c'est quelque chose qui me fascine, puisque c'est vraiment... un objet unique dans l'histoire du cinéma et dans l'objet de l'histoire de la culture populaire internationale, parce que c'est rare qu'une telle franchise ait marqué autant le monde entier, tout ça, et je pense que c'est dû à George Lucas, qui est au début un fan d'anthropologie, notamment des écrits de Joseph Campbell, que ce soit la puissance du mythe ou l'héros aux mille visages, qui a brassé tous les grands mythes de l'humanité et il a repris, il a fait une synthèse avec des Wookiees, des sabres laser et des planètes. Et...
Patrice Giraud, oui, parce que quand on parle des origines et des influences et de l'inspiration de George Lucas, il y a plein d'exemples qui viennent. Alors vous pensez que tout est parti d'où?
De toute façon, c'est parti de George Lucas.
Ouais.
Non, mais en même temps,
il a recyclé.
Non, mais c'est important ce qu'il dit parce que.
Ce que dit Alexis, oui.
Ah non, mais George, c'est le roi de la recycle. Mais. À sa sauce. Et puis quelque part, ce qui est un peu navrant aujourd'hui avec Hollywood, je parle tout le temps de Fast and Furious, bon j'ai rien contre eux, mais moi c'est pas un type de cinéma qui m'intéresse. Mais le drame c'est qu'aujourd'hui Hollywood fait Fast and Furious, pourquoi ils ne font pas du Star Wars ou du Indiana Jones? C'est-à-dire que pourquoi Lucas, lui quand il a fait Star Wars, il s'est dit je vais faire un quitte à faire un truc fun style Flash Gordon, je vais quand même mettre des choses dedans pour les générations de gosses, leur raconter quelque chose d'important dans leur vie, des contes mythologiques. Et aujourd'hui, Hollywood a pris Les Aventuriers de l'Arche Perdue et Star Wars, en a retiré toute la substance pour des films qui vont à 20 km/h, mais on sort de là, on les a déjà oubliés.
Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'humain dedans.
Et Transformers,
il y a de l'humain dans Star Wars.
Transformers, c'est pareil, ça bouge, mais on a oublié ces films en sortant.
Ouais. Mais c'est terrible. Hein.
Mais c'est qu'une question de choix du réalisateur ou du scénariste de dire « Non, j'ai envie d'inculquer dedans, de raconter une histoire ». Harry Potter, c'est ça, c'est pour ça que ça marche.
Ouais.
Harry Potter est une création géniale, mais derrière, la fille qui a écrit ça... elle a une volonté de vouloir de faire du divertissement de qualité.
Et le Seigneur des Anneaux aussi.
Ça vient d'un livre.
Ça vient d'un livre, mais c'est quand même extrêmement humain quelque part.
Bien sûr.
Il y a des grands mythes, des grandes batailles, il y a des grandes douleurs.
Et une fois de plus, hein, Star Wars, si ça marche, c'est qu'à la fois, c'est quelque chose de très simple. Donc un enfant de 10 ans peut comprendre ce qui se passe. C'est un jeune garçon, un fermier, qui va quitter sa famille pour combattre l'Empire. Voilà, c'est ça. Voilà, je viens de résumer en 10 secondes Star Wars. Mais derrière, il y a plusieurs strates. On peut l'analyser, le revoir d'une manière complètement différente au fil des années. Mais c'est un film simple.
Alors moi, ce qui me fascine, c'est qu'après avoir travaillé dessus, puisque je ne suis pas un grand spécialiste, je me dis, bon, mais ce fameux George Lucas, qui est quand même un grand du cinéma, on va dire, comme il y a Zemeckis, il y a Spielberg du côté d'Hollywood, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et j'ai vu qu'il avait rien fait d'autre. Donc c'est quand même un cas assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un cas de monomanie. Voilà un réalisateur connu dans le monde entier qui n'a fait que les mêmes films tout le temps, la même franchise tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait à côté?
Le problème, c'est ça. C'est que George a fait THX 1138, il a fait American Graffiti, il a fait Star Wars, c'était quand même un cinéaste hyper prometteur. Et comme dit Coppola, Star Wars, ça l'a tué.
Coppola,
j'ai vu une interview, il disait à cause de Star Wars, on a perdu un grand réalisateur.
Ah, c'est incroyable.
C'est-à-dire que tout d'un coup, ça l'a happé, ça l'a happé dans quelque chose.
Ça c'est vachement intéressant.
Bah, c'est vrai, c'est quelque part, il avait ce truc qui est devenu énorme, et bon, bah, il a pris ce choix-là en se disant, c'est vrai que finalement, il a eu son autonomie pour fabriquer ses ranges, parce qu'au-delà du cinéaste, il aime construire des bâtiments.
Voilà. Et puis il a gagné beaucoup d'argent.
Oui, mais il a réinvesti beaucoup dans le numérique. Aujourd'hui, si on a des IRM dans les hôpitaux, c'est grâce à Star Wars en 77. Ça, personne ne le sait. Mais voilà, c'est. Il ne pouvait pas dire non à cette puissance financière.
Ouais.
Et ce qui importait pour lui, c'était l'indépendance. Donc, il a suivi dans Star Wars, mais quelque part, il était enchaîné à sa créature. Quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que en étant enchaîné à sa créature au fil des années, vous devenez une sorte de gars dans votre tour d'ivoire, en tournée d'une cour. Ça donne les derniers films qu'il a fait qui sont pas extraordinaires, Red Tails et Strange Magic. Voilà, il s'est perdu, mais comme beaucoup, face au pouvoir. Je dirais, même Spielberg aujourd'hui, c'est pas le Spielberg il y a 30 ans, il a un autre statut aujourd'hui. C'est plus le jeune qui veut absolument raconter des histoires.
On se retrouve pour le meilleur moment de l'émission, presque, attention, pour le quiz sur Star Wars. Alors là, il va falloir être au taquet, comme on dit, parce que non seulement il faudra, c'est des extraits doublés bien sûr, non seulement il faudra découvrir lequel des 6 films, mais en plus le numéro en même temps, donc attention, concentrez-vous.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Donc nous avons 12 extraits, où il y a à peu près tous les films.
J'ai le droit de jouer ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous avez le droit de jouer. Vous êtes invité à jouer. Attention, c'est parti.
Ainsi s'éteint la liberté.
Épisode 3.
Épisode 3.
Ce qui s'appelle
La revanche des Sith.
Bravo, là on va aller vite. D'après moi, ça va foncer. Attention. Deuxième titre.
Le retour de Jedi.
Bravo. C'est l'épisode
6.
Bien. C'est fort.
J'ai reconnu au grognement.
Troisième extrait.
Non. Mais c'est pas.
L'Empire contre-attaque.
Bien. On leur dit le metteur concours.
Je peux me retirer là si vous voulez.
Épisode 5 donc.
La peur est le chemin du côté obscur.
Épisode 2.
La peur mène à la colère.
L'attaque des clones.
La colère mène à la haine. La haine.
Épisode 1, la menace fantôme.
La menace fantôme.
Oui, c'est ça, pardon. C'est ça. Épisode 1, la menace fantôme. C'est le quatrième extrait, c'est ça qui m'a trompé. Cinquième extrait.
L'épisode 4.
Nouvel espoir.
Que t'as une sale gueule.
Oui, c'est ça. Oui, c'est la guerre des étoiles qui m'a trompé. Sixième extrait.
L'empereur vient d'ici.
Épisode 6.
C'est exact.
Retour du Jedi.
Bravo.
J'acquiesce.
Septième extrait.
Votre manque de foi me concerne.
La guerre des étoiles.
Un nouvel espoir, ça s'appelle. Ouais. C'est ça. Hein.
Un nouvel espoir.
Huitième extrait.
Il y a encore une épreuve.
Épisode 6. Retour du Jedi.
Ouais. Bravo. Oh là 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 là. Ah, vous êtes largué là.
Ah oui, là je suis vraiment largué là.
Neuvième extrait.
L'épisode 1.
Tu entends ça?
Exact.
C'est le bruit que font des milliers d'horribles choses qui sont en train.
Dixième extrait.
C'est inévitable.
Le retour des Jedi. Ouais.
Car tel est ton destin.
Henri Vire le jeu.
C'est Henri Vire le jeu qui
fait la voix de l'empereur. Ouais.
Oh, c'est génial.
Belle voix.
Tiens, on parlera des voix aussi tout à l'heure. Onzième extrait.
La guerre des étoiles.
Un
nouvel espoir, absolument. Douzième et dernier extrait.
Luc, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons.
Absolument. L'épisode 6 sur Jedi. Bah, bravo. Il y en a deux qui ont été très bons, Alexis et Patrice.
Il est pas mauvais, Jean-Christophe.
Je connais plus la nouvelle trilogie que la première, pour les avoir revus très récemment. Ouais. Du coup, j'étais un peu.
Non, mais j'ai 40 ans d'entraînement, moi. Donc,
Et Alexis, une vingtaine d'années d'entraînement.
Pas mal.
On se retrouve dans un instant pour la conclusion.
Vous écoutez La Grande Séance. L'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
Alors Patrice Giraud, évidemment, le 16 décembre, tout le monde va se précipiter dans les salles. Est-ce que vous, encore une fois, vous connaissez bien la machine? Est-ce que ça peut cartonné tout de suite. Est-ce qu'on attend des chiffres,
oui,
en tout cas, oh, de spectateurs faramineux et de dollars aussi,
oui, oui,
c'est... dans le monde.
La question, c'est de savoir jusqu'à quel niveau ça va aller. Oui, il va grimper à une vitesse comme jamais aucun film n'est jamais parti. C'est sûr qu'il va battre le James Bond, il va battre Jurassic World, il va faire un record. Là, tous les jours, on va nous annoncer le record.
Ouais.
La question, c'est jusqu'à combien il va monter. Donc, il va faire plus d'un milliard, c'est à peu près sûr. Je pense qu'on va aller au milliard de 1 milliard et demi.
Je pense qu'on peut dépasser le 3 milliards facilement.
Moi 3 milliards,
2 milliards minimum.
Je pense que ils vont arriver aux 2 milliards. Pour dépasser le 2 milliards, je pense que là il va falloir que le film soit très très bon.
Ouais.
Pour 3 milliards, ça va être dur, hein. 3 milliards, c'est pratiquement ce qu'a atteint Avatar. Ouais. Mais attention, Avatar était un film, c'est pas un film science-fiction, c'est une histoire d'amour. Moi j'ai vu plein de femmes de 60 ans en parler en disant je suis allé le voir plusieurs fois. Star Wars,
Avatar.
Ouais. Star Wars, c'est de la science-fiction.
C'est pas pareil,
3 milliards, ça va être
vivant, hein.
S'ils y arrivent,
les records, c'est quoi? C'est Avatar ou c'est Titanic?
Avatar avec 2,8 milliards, je crois, quelque chose comme
même.
Ça
2,8 milliards.
Et après Titanic qui est second, je pense, à 2 milliards et 100, quelque chose comme ça. Ah, mais 3 milliards pratiquement, Avatar, c'est du jamais vu.
3 milliards. Donc il peut battre Titanic.
Mais peut-être pas
Avatar.
Parce qu'il y a la 3D, ouais.
Et en France, ça va démarrer aussi au niveau du nombre de spectateurs. Il va y avoir des records aussi, parce que on est le 16 décembre, ça va faire rentrer des spectateurs pour l'année 2015.
Ouais, mais
je pense à ça.
Mais quand on voit le James Bond, hein, il peine à 4 millions. Hein. C'est plus les scores qu'on faisait avant.
C'est vrai.
Cinéma,
mais le bruit a couru qu'il était. Il n'y a pas eu un bon bouche à oreille.
C'est vrai.
Et les critiques ont été moyennes pour le James Bond.
C'est pour ça que pour faire 2 milliards, il va falloir que les critiques du Star Wars soit bonne.
Mais est-ce que les Inrock et Libé vont critiquer, ou Télérama vont faire des critiques de Star Wars? Ça leur échappe un peu tout ça, non?
Non, il va y avoir... Vous savez, je pense que le problème sur un film comme ça, fait sur 40 ans, il va y avoir du clivage. Il y a forcément des gens qui vont pas aimer parce que c'est Abraham, c'est un autre parce que c'est Disney. Voilà, de toute façon, puis même il y a des gens, moi c'est ma génération, c'était la première trilogie, la deuxième trilogie c'était moins un autre truc, mais je pense que ceux qui sont nés avec la seconde trilogie, eux, ils vont voir peut-être ces nouveaux films, ça sera vraiment différent de la leur. Enfin, voilà, c'est difficile de maintenir quelque chose qui plaise à tout le monde sur 40 ans. Le challenge est très dur.
Vous, Patrice Giraud, ce sera ma dernière question. Vous pouvez ne pas aimer parce que vous avez une position difficile, vous, parce que fan absolu.
Moi, c'est l'histoire. C'est qu'à un moment, je veux un vrai divertissement qui pendant 2 heures, j'oublie tous mes problèmes et surtout qui me happe. Qui m'entraîne là-dedans dans ce conte épique avec de la grande musique, des grands effets spéciaux, mais tout ça avec une histoire pas ultra compliquée, mais du grand divertissement.
Alors là, on fera un débriefing en janvier à la prochaine émission. Donc je vous rappelle aussi, parce que c'est très important pour Séance Radio et pour Goom Radio.
Juste rajouter, n'oublions pas, c'est un film, et ça j'espère que Disney n'aura pas oublié, c'est un film pour les enfants. Moi je suis hors course quelque part.
Ouais.
Il ne faut pas oublier les enfants de 8, 9, 10 ans, 11 ans.
Là par exemple,
j'espère
pas,
nouveau
pas
film,
d'interdiction.
Pour, aux États-Unis, il est PG-13.
Ah oui.
C'est-à-dire déconseillé au moins de 13 ans, non accompagné.
Quand même, c'est une indication.
Ça veut dire qu'il va y avoir des scènes un peu violentes.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut faire attention en France aussi. Hein. Donc du 14 au 18 décembre, pour la sortie. Épisode 7, je le dis quand même, du Réveil de la Force. Séance Radio vous propose une semaine spéciale Star Wars avec des contenus exclusifs et plein de surprises, notamment le mercredi 16 décembre, qui est le jour de la sortie, comme je vous l'ai dit. Il y aura bouleversement des programmes pour que vous puissiez vivre l'événement comme il se doit. Donc n'oubliez pas, toute une semaine du 14 au 18 spéciale Star Wars avec le mercredi 16 décembre, l'apothéose, journée super spéciale Star Wars. Prochain rendez-vous le 6 janvier. Et en attendant, rappelez-vous.
Et toute l'actualité de la radio, Séance Radio, c'est sur Facebook et Twitter.
Voilà, cette émission se termine. Merci Jean-Christophe, merci Tiffany, merci Alexis, merci Patrice Giraud d'avoir
merci
été
à vous,
notre invité.
Super.
On a appris des tas de choses. Et puis je rappelle, Génération Science Fiction, de Flash Gordon à Matrix, aux éditions
Bragelonne.
Et n'oublions pas dans ce nouveau film la nouvelle musique de John Williams.
Absolument, toujours John Williams. Merci, à la prochaine émission en janvier.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.